Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron a ouvert le sommet de Paris. Il a parlé d'un nouveau projet pour la Nouvelle-Calédonie. Page spéciale dans un instant. Retour sur le procès des emplois fictifs et la condamnation de plusieurs responsables de Calédonie Ensemble. Le procureur de la République était ce matin notre invité. En métropole, le début des vacances perturbé par un mouvement de grève des contrôleurs aériens. Ils contestent la nouvelle organisation plus contraignante que veut mettre en place la direction de l'aviation civile. Le sport avec les mini-jeux du Pacifique. 3 nouvelles médailles pour la délégation calédonienne, mais pas d'or. Et puis en football, un retour inattendu en Ligue 1. Olivier Giroud, bientôt 39 ans, vient de signer pour un an à Lille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 8 startups calédoniennes ont participé récemment au salon Vivatech à Paris. Certaines d'entre elles viendront partager leur expérience ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quels sont les avantages de participer à ce type de salon? Ont-elles pu avoir des contacts commerciaux intéressants? Rendez-vous donc dès la fin de ce journal pour les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Un projet nouveau pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que le président de la République a présenté aux délégations calédoniennes qui ont entamé une nouvelle séquence de discussions à Bougival, en région parisienne. Les négociations à huis clos doivent se poursuivre jusqu'au week-end, sans échéance prédéterminée. Auparavant, Emmanuel Macron a ouvert le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il a reçu les Calédoniens pendant 2 heures à l'Élysée. Sa déclaration n'a pas été rendue publique, mais on sait qu'il a évoqué la possibilité d'un délai long d'au moins 20 ans de maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France pour permettre au territoire Élisabeth Noire de se remettre de sa situation actuelle.
La rencontre à l'Élysée, à huis clos, a débuté par une coutume d'accueil. Elle a été faite par Patrice Faure, l'ancien haut-commissaire devenu directeur de cabinet du président de la République. C'est au nom d'Emmanuel Macron qu'il s'est exprimé et il a remis plusieurs cadeaux à la délégation du Sénat coutumier, dont un stylo, celui, a-t-il dit, avec lequel on espère que nous signerons au moins un compromis, si ce n'est un accord, dans les jours ou les semaines qui viennent. Ici, comme en Calédonie, les gens souffrent de vous voir souffrir, a ajouté Patrice Faure, en rappelant le contexte économique et social catastrophique de la Nouvelle-Calédonie depuis les violences insurrectionnelles de mai 2024. Une réception à l'Élysée à laquelle participaient le ministre des Outre-mer Manuel Valls, le Premier ministre François Bayrou, mais aussi le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Emmanuel Macron a pris la parole dans une déclaration qui n'a donc pas été rendue publique et les chefs de délégation se sont exprimés ensuite chacun à leur tour. On en retient que le président de la République n'a pas formulé d'annonce formelle, mais qu'il a posé un cadre en insistant sur la nécessité d'une approche pragmatique et sur la réalité géopolitique dans le Pacifique. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un délai long d'au moins 20 ans de maintien de la Calédonie dans la France pour permettre au territoire de se remettre de sa situation actuelle. Les délégations ont ensuite pris le bus pour rejoindre l'hôtel Hilton de Bougival dans les Yvelines où ils ont débuté les discussions pendant 2 heures environ. Tous les partisans sont hébergés dans cet hôtel où les négociations se poursuivront à huis clos, notamment pendant le week-end, et elles sont censées durer le temps nécessaire.
La déclaration du président de la République n'a donc pas été rendue publique, mais on en sait tout de même un peu plus au travers des déclarations des partenaires politiques qui se sont exprimés à l'issue de cette séquence à l'Élysée.
Relativement peu de déclarations après cette ouverture du sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et alors que personne, il faut le souligner, n'a claqué la porte. Des propos du chef de l'État, on retient, au vu de ces déclarations, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France et qu'il faut un délai de 15 à 20 ans pour la reconstruction du territoire avant de faire le choix d'un statut définitif. Emmanuel Macron a également écarté l'hypothèse d'un référendum binaire. C'est ce que relève la chef de file des loyalistes, Sonia Backès.
Plusieurs choses. D'abord, il a fixé un cadre assez clair aux négociations en disant que le statut de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas se situer en dehors de la France. Il a dit aussi que c'était sans doute compliqué de trouver un statut définitif, donc il fallait se laisser du temps. Il a parlé de 15 à 20 ans pour reconstruire en restant dans la République dans cette période-là et qu'à l'issue de cette période, il pouvait y avoir une construction d'un choix avec toutes les options sur la table pour que les Calédoniens aient à choisir le statut qu'ils souhaitent. Et que personne ne saurait à ce moment-là dans quel état serait la géopolitique, globalement la situation de la Nouvelle-Calédonie. Après, il a développé beaucoup de choses d'un point de vue économique, d'un point de vue du nickel, d'un point de vue des institutions qu'il nous faudra développer pendant les négos. Mais oui, il a déposé un projet nouveau qui est au moins de stabiliser la Nouvelle-Calédonie pour un temps certain. Et il a clairement affirmé également qu'il ne voulait pas qu'à l'issue de cette période de stabilité, il y ait un référendum binaire pour ou contre l'indépendance, parce que c'est ce qui nous a clivé jusque-là.
Et dans sa déclaration en ouverture du sommet, Siona Bakès avait relevé que ce moment oblige collectivement à faire preuve de hauteur de vue, de lucidité, d'abnégation et d'inventivité dans le respect des valeurs qui animent chacun. Elle a également appelé à trouver une solution qui respecte la démocratie, qui assure de la visibilité, qui engage de profondes réformes de notre modèle institutionnel et de société, et qui assure le respect et l'égalité de chacun, quelle que soit son origine. Le député Nicolas Metzoff a lui aussi réagi après la déclaration du président de la République. Il estime qu'Emmanuel Macron laisse ouvert le champ des possibles.
Il a précisé que la Nouvelle-Calédonie devait rester française compte tenu du résultat des trois référendums, que malgré le fait que les indépendantistes contestent la légitimité du troisième, il avait été validé juridiquement. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Ensuite, il laisse ouvert la négociation sur les autres points, la question des compétences, la question du corps électoral, la question surtout pour lui du développement économique et de la stratégie économique, puisqu'il a rappelé qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie était plus dépendante de la France qu'auparavant et que notre modèle devait évoluer. Et il a parlé de plusieurs choses. Il a dit, est-ce que vous pouvez trouver un statut définitif maintenant, ou est-ce que alors vous allez partir sur une phase avec une Calédonie française et qu'à la fin, vous puissiez encore décider de faire évoluer le statut ou non. Il a laissé le champ des possibles ouvert. Hein. C'est ça qu'il faut retenir du discours. Je pense qu'il a été très clair sur le fait que le statut prochain de la Calédonie devait être française et qu'après, il laissait libre cours à la négociation et ça va commencer ce soir.
Voilà pour la déclaration des Kamezov et les discussions ont effectivement d'ores et déjà commencé. Virginie Rufnak, enfin pour le Rassemblement, retient pratiquement les mêmes éléments dans les déclarations du chef de l'État.
Le discours du président indique que les trois référendums ne peuvent être remis en cause et que du coup le travail doit se faire sur la base de ces trois référendums, ce qui est important pour nous parce que ça rompt avec ce que nous avons connu dans le cadre des discussions, notamment avec le ministre d'État, et par conséquent c'est un élément important pour nous. Par ailleurs, je pense qu'il essaye de nous proposer qu'il y ait une base de 15 à 20 années de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie indispensable pour que la Nouvelle-Calédonie ne soit plus dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, construire une solution finalement définitive actuellement, institutionnelle, est très complexe sur les braises et le tas de cendres sur lequel nous sommes assis aujourd'hui avec une société calédonienne complètement effondrée. Donc voilà, le président donne un cap, c'est dans la République, les travaux doivent maintenant se mener. Et cette période, finalement, nous la saluons, cette période de reconstruction dont il considère qu'elle ne peut être inférieure à 15-20 années, car la Calédonie, effectivement, aujourd'hui, est dans une situation dramatique.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Emmanuel Macron a donc fixé un cap ou un cadre dans lequel vont maintenant se dérouler les négociations. La Nouvelle-Calédonie reste dans la France conformément aux résultats des trois référendums et il faut donner du temps au temps, 15 à 20 ans, une période de stabilité. Avant de trouver un statut définitif, il faut aussi travailler sur la reconstruction économique et sur la réforme des institutions actuelles. Malgré le changement de format et de méthode, le FLNKS reste autour de la table. Ses représentants sont partis, comme tout le monde, à Bougival. Et pour la petite histoire, on relèvera que Christian Théin s'est présenté au portail de l'Élysée en compagnie de Gilbert Thuyénon, mais que l'accès leur a été refusé.
Le président de la République a donc repris la main dans le dossier calédonien avec la tenue de ce sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer va néanmoins animer les discussions. Alors que devient le projet Valls de souveraineté avec la France? La réponse du député Nicolas Metzdorf.
Aujourd'hui, en tout cas, dans la tenue du discours du président de la République, le projet de Manuel Valls n'apparaît pas. Et au contraire, le président de la République a dit « Vous n'arrivez pas à assumer déjà vos compétences aujourd'hui ». Pour rebâtir un modèle économique viable avant de parler d'autre chose. Donc, je pense que c'est tout le contraire du projet de Valls qui voulait déjà transférer les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie. Donc, sans le dire, mais sans le mentionner non plus, je pense que le projet de Valls, oui, n'est clairement pas dans la tête du président de la République aujourd'hui. Est-ce que le fait de parler d'un nouveau projet est un désaveu de Manuel Valls? Je le pense. L'idée pour nous, là, aujourd'hui, c'est d'être concentré pour trouver une solution. Je pense qu'on est dans une nouvelle phase, on regarde devant. Et l'idée, c'est pas de regarder ce qui s'est passé à Devas et derrière nous.
L'échec du conclave de Devas a été pris en compte, affirme pour sa part Virginie Rufnak, le chef du groupe Rassemblement.
En tous les cas, nous nous avons dit que DEVA constituait un échec, puisque comment imaginer aujourd'hui que les partisans de la France que nous sommes auraient pu accepter une solution d'indépendance alors que par trois fois, les Calédoniens ont demandé à rester au sein de la République. Donc, évidemment, c'était totalement illusoire d'imaginer un seul instant que nous aurions pu accepter cela. C'est la raison de l'échec de DEVA. Donc aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans un nouveau chemin et c'est l'initiative finalement qu'a pris le président de la République, ouvrir un nouveau chemin dont il considère que les trois référendums, même si le troisième est critiqué et remis en cause, ils sont tous légaux, reconnus par la communauté internationale comme légaux et que par conséquent, ils s'imposent à tous.
Les partenaires politiques ont donc débuté les négociations à Bougival. Parallèlement, va débuter demain le collège économique et sociétal qui se déroulera au ministère des Outre-mer rue Oudinot. Des séquences hybrides avec les acteurs économiques, sociaux et la société civile sont prévues jeudi et vendredi matin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Souhaitez-vous que le sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui se tient à Bougival débouche sur un accord ? Si vous le souhaitez, vous tapez 1. Si vous ne le souhaitez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'après sa condamnation à une peine d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs, Philippe Gomès ne peut pas participer aux négociations sur l'avenir. Ils sont 7% à être d'un avis contraire. Justement, le procureur de la République, Yves Dupas, estime que la justice a fait un travail de qualité dans le dossier des emplois fictifs. Il était notre invité ce matin à 7h30 pour revenir sur le jugement du tribunal correctionnel qui a condamné deux responsables de Calédonie Ensemble, Philippe Gomès et Philippe Michel, à 3 et 4 ans de prison, à de lourdes amendes et à 5 ans d'inéligibilité. Yves Dupas a rappelé qu'au cœur de cette affaire, il y a un détournement d'argent public.
À l'issue de 4 jours d'audience, le tribunal a, dans un jugement de 107 pages, particulièrement motivé, sanctionné ce délit de détournement de fonds publics reproché aux prévenus par le recrutement de chefs coutumiers au sein de la communauté wallisienne et foutounienne pour, en principe, aider les élus et de la province sud et du Congrès. Mais on a relevé effectivement une absence de contrepartie de travail pour finalement servir les intérêts d'un parti politique, Calédonie Ensemble, et surtout pour capter un électorat au sein de la communauté wallisienne et foutounienne. Donc c'est surtout ce délit de détournement de fonds publics, des fonds de la province et du Congrès, par le biais de ces emplois fictifs de chefs coutumiers, dits collaborateurs de terrain, mais qui n'ont apporté, en tout cas au regard de la décision du tribunal, aucune contrepartie de travail.
Un délit de détournement de fonds publics par le biais d'emplois fictifs de chefs coutumiers, cela s'apparente aussi à de l'achat de voix et à du clientélisme à but électoraliste.
C'est une formule, achat de voix. L'achat de voix, en tout cas, c'est un système clientéliste. C'était notre analyse au parquet, un système clientéliste destiné effectivement à capter cet électorat et donc à faire voter pour Calédonie Ensemble. Alors l'achat de voix, c'est une formule, mais en tout cas le but est purement électoraliste dans ce système mis en place par Philippe Gonès, le fondateur de ce parti Calédonie Ensemble et au profit de Calédonie Ensemble.
Le procureur de la République rappelle que le jugement n'est pas définitif et qu'il est susceptible de recours. Il souligne aussi que depuis 2012, les manquements à la probité ont fait l'objet d'un virage répressif très clair de la part du législateur. Dans ce contexte, la peine d'inéligibilité est obligatoire et il explique pourquoi il a requis l'exécution provisoire qui prive immédiatement les prévenus de leur mandat.
Nous avons requis cette modalité de l'exécution provisoire dans ce dossier Calédonie Ensemble et Philippe Gomès. Parce que effectivement, il s'agit d'infractions graves. Parce que cette exécution provisoire, c'est un mécanisme qui permet de contribuer à l'efficacité de la peine, à rétablir et en tout cas à renforcer l'idée de l'exemplarité des élus, des décideurs publics. C'est très important. Et aussi, finalement, à préserver l'ordre public, à sauvegarder l'ordre public. Prévenir aussi la récidive, puisque nous avions dans ce dossier encore deux élus en exercice. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont soumis, bien sûr, à l'appréciation du tribunal. C'est le tribunal qui tranche, in fine, et il a tranché en ce sens par rapport à cet objectif d'exemplarité, à cet objectif d'efficacité de la peine.
Ce jugement va maintenant être communiqué au haut-commissaire pour la mise à exécution de cette peine d'inéligibilité, mais elle est d'ores et déjà effective, souligne Yves Dupas. Il précise aussi que dans le même registre, une autre enquête est en cours dans la province des Îles. Elle concerne le recrutement de 130 collaborateurs. Une interview du procureur de la République à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Avant une première pause dans ce journal, cette information en bref pour vous signaler que le vol spécial d'Air Calin SB701 a été dérouté vers Nandi. Il était parti de Singapour et devait se poser ce matin à la Tontouta. Après plusieurs passages au-dessus du territoire, il n'a pas pu atterrir en raison des mauvaises conditions météo. Il a donc été dérouté vers Fidji où il a pu se poser. Air Calin attend maintenant une heure de programmation d'un vol Nandi-Nouméa. Il est 11h45, c'est l'heure de marquer une première pause dans ce journal avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Retrouvez-nous le jeudi 3 juillet à 18h à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour le ciné-débat « Empreinte océan sur les tortues marines ». Découvrez l'engagement passionné des scientifiques et des communautés locales qui travaillent ensemble pour protéger ces créatures emblématiques et pour préserver leurs précieux sites de ponte. Venez assister à la projection de l'émission « Empreinte océan » et posez vos questions en direct aux experts et scientifiques. Ouvert à tous et gratuit. Alors rendez-vous le jeudi 3 juillet à 18h à l'UNC à Nouméa.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Dans l'actualité sociale, l'activité reprend sur le site minier de Népouy. Il était bloqué depuis lundi par un collectif qui s'opposait à l'attribution du marché de gardiennage du site. Dès le début du mouvement, des discussions ont été menées entre l'industriel et les autorités coutumières de la tribu de Waté. La SLN annonce ce matin avoir décidé d'accorder un délai de 6 mois avant la mise en œuvre du nouveau contrat, afin de créer, je cite, « les conditions d'un échange serein et respectueux propice à une meilleure compréhension des positions et des attentes exprimées par les coutumiers durant le blocage ». L'objectif partagé reste de parvenir à une solution équilibrée et satisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes. Fin de citation de ce communiqué publié ce matin par la SLN. Une plongée au cœur des métiers de la construction, c'est ce qu'ont pu vivre une quinzaine de jeunes ce matin. Ces élèves de la 3e SECPA du collège de Magenta ont visité le chantier de construction et de rénovation de la bibliothèque Bernheim à Nouméa, Charlotte Coulson.
De l'architecte au peintre, en passant par le gros œuvre, l'électricité, la charpente ou même le plâtre. Le secteur du BTP regroupe une quarantaine de métiers différents. Sur le territoire, 8% des effectifs de salariés travaillent dans la construction, 4198 au 4e trimestre 2025. C'est donc un secteur essentiel en Nouvelle-Calédonie et même s'il est en difficulté, il faut le faire connaître du grand public, selon Benoît Meunier, membre de la FCBTP.
Alors c'est de faire une interface entre le monde de l'entreprise et les élèves, essayer d'initier certaines envies de travailler dans notre secteur qui manque un petit peu de bonne presse au niveau des jeunes. Alors après la 3e, effectivement, on peut prendre des CAP, des BEP ou prendre un bac pro ou continuer en général et puis faire après des études en post-bac, voilà, à tous les niveaux. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux déjà inciter les jeunes. Donc ils ont des stages de découverte en entreprise et qui permettent de voir les différentes activités et notre secteur en particulier.
Les jeunes du collège de Magenta ont donc revêtu leur casque de chantier et leur gilet fluorescent ce matin, direction le chantier de la bibliothèque Bernheim à Nouméa, où ils ont suivi avec attention la présentation de l'architecte du projet.
Vous voyez par terre les éléments en plaque-au-plâtre à perforer.
On fait une visite de notre entreprise pour plus tard. C'est pas encore fini les travaux, puis on est juste passé pour voir comment c'était.
Il y a toutes sortes de métiers. Il y a la maçonnerie,
ingénieur et puis architecte, puis électricien aussi.
On découvre un peu. Ben, vu que pour le mois de septembre, on aura un stage.
Ça vous donne des idées pour votre stage?
Oui, peut-être.
Pour notre métier plus tard.
Une visite de chantier à laquelle a également assisté Pételo Sao, le membre du gouvernement en charge de la construction.
C'est le troisième employeur en Nouvelle-Calédonie, donc c'est vraiment un secteur important. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la reconstruction, donc c'est important d'accompagner le secteur, d'accompagner les professionnels. Il faut insérer notre jeunesse dans cette reconstruction. Il y a beaucoup de vocations qui peuvent naître derrière les métiers de la construction, et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir ici aujourd'hui à travers ces coulisses du bâtiment.
Il s'agissait d'une première édition pour cet événement intitulé « Les coulisses du BTP ». Il était organisé par la FCBTP avec le MEDEF et le vice-rectorat.
L'ADI fête ses 25 ans en Nouvelle-Calédonie. L'association de microcrédit organisait aujourd'hui une journée pour remercier ses partenaires historiques, mais aussi pour rendre hommage à certains projets qui ont vu le jour grâce à l'accompagnement de l'association Léana Colombo.
Oui, un événement organisé pour l'occasion à la FOL. Depuis un quart de siècle, l'ADI accompagne les Calédoniens dans leurs projets professionnels en leur octroyant un microcrédit, mais aussi un accompagnement personnalisé. Un travail d'autant plus important quand on connaît les différentes crises qu'a traversé la Nouvelle-Calédonie ces dernières années. En 25 ans, plus de 11 500 entrepreneurs ont reçu l'aide de l'ADI pour se lancer et plus de 1 000 personnes ont effectué des démarches de renseignement auprès de l'association depuis le début de l'année. Alexandre Dufault est le directeur des opérations de l'ADI.
À l'ADI, nous sommes ouverts à tous les projets. Notre public, il est divers, il est varié, il est représentatif de tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Il est souvent plus éloigné de l'emploi que les autres. Pour vous donner un chiffre, depuis 25 ans, le public qu'on a financé, pour 66% d'entre eux, n'ont pas de diplôme. Et malgré tout, ils deviennent chefs d'entreprise, créateurs. Ils réussissent, ils sont autonomes dans leur vie, et font aboutir parfois leurs rêves, et grâce au soutien financier de l'ADI, puis grâce aussi à leur travail.
Cette journée est également l'occasion de remettre les prix Créadi à certains entrepreneurs. Kelly Renou, créatrice des gâteaux de Lily, a remporté le prix Jeune. Elle remercie aujourd'hui l'ADI de son accompagnement.
J'avais une passion, j'avais un projet et je devais le réaliser. Et question financement, il y a toujours eu un frein. Donc j'ai contacté l'ADI qui, grâce à elle, j'ai pu ouvrir les gâteaux de Lily. J'avais frappé à beaucoup de portes qui m'ont fermé la porte au nez, justement. Donc clairement, c'est l'ADI qui a subventionné à près de 80% mon projet et qui fonctionne très bien. L'ADI accompagne, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider à répondre à toutes nos questions et c'est super.
L'ADI compte sur le territoire et à Wallis et Futuna 16 antennes, dont 5 mobiles. Et la dernière a vu le jour en avril dernier, c'était à Bellevie.
En bref, notez que le salon Floralie et Jardinage a ouvert ses portes ce matin à la Maison des Artisans. Les fleurs y sont particulièrement à l'honneur cette année, mais des entreprises locales de produits transformés et d'outillage sont aussi sur place pour présenter leurs produits. Ce salon Floralie et Jardinage est ouvert de 8h30 à 16h et se poursuit jusqu'à dimanche à la Maison des Artisans à Nouville. Il est 11h52, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ce jeudi 10 juillet, le Nord vient à votre rencontre sur la place des Cocotiers. Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique, les communes du Nord vous réservent de beaux partages et des saveurs authentiques. Le jeudi du centre-ville, l'authenticité du Nord, c'est ce jeudi 10 juillet de 8h à 19h, place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Votre enfant envisage des études à l'étranger ? Le Salon Get Ready vous accompagne dans ses projets d'orientation post-bac. Vendredi 4 après-midi et samedi 5 juillet, au Crépac à Nouville. Infos sur les démarches, les pays, les aides. L'entrée est libre. Plus d'infos sur Facebook.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Bodin.
En métropole, l'épisode de forte canicule est passé. Il n'y a plus aucun département en vigilance rouge forte chaleur. Malgré tout, les températures restent élevées sur une grande partie du territoire métropolitain et plus de 30 départements restent en vigilance orange. Ambiance très chaude aussi sur les bancs de l'Assemblée nationale où les députés examinent une proposition de loi sénatoriale qui vise à allonger la durée de séjour dans les centres de rétention administratifs qui accueillent les clandestins sous OQTF qui attendent leur expulsion. Ce texte vise d'abord les étrangers les plus dangereux et pourrait porter la durée de leur séjour de 90 à 210 jours. Une urgence, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Ce texte est le fruit d'un travail parlementaire, mais il est surtout, je crois, le produit d'un drame, la mort tragique de la jeune Philippine. Je l'ai souvent dit, quand la règle de droit ne protège plus, alors il faut changer la règle. Rien ne nous empêche de changer la loi.
Ce texte adopté au Sénat provoque de vifs débats sur les bancs d'une assemblée divisée sur le sujet. Préavis de grève à partir de demain dans les aéroports de métropole. Un quart des vols pourraient être annulés d'ici la fin de la semaine dans les aéroports parisiens. Et les aéroports régionaux seront également touchés par ce mouvement des contrôleurs aériens. Le ministre des Transports ne veut pas céder et hausse le ton alors que cette grève intervient au moment des départs en vacances. Sur les raisons de cette grève, les explications d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
C'est surtout la réforme voulue par la DGAC qui irrite les grévistes. Mettre en place un pointage des contrôleurs à chaque prise de poste. Une révolution pour ceux qui jusque-là avaient leur propre organisation, le système de la clairance. S'ils estimaient ne pas avoir besoin d'être 6, comme c'était prévu au tableau de service, certains pouvaient rester chez eux pendant que 3 collègues étaient bien présents dans la tour de contrôle. C'est précisément ce qu'il s'était passé à l'aéroport de Bordeaux fin 2022, quand 2 avions avaient failli entrer en collision. L'enquête du BEA avait conclu que l'organisation avait été défaillante. Et tout à l'heure, en conclusion du congrès annuel de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, Philippe Tabarot a rappelé qu'il resterait ferme. Il en va de la sécurité des vols et du sérieux de la profession. Je ne céderai pas sur cette réforme indispensable, a tranché le ministre des Transports. La DGAC reconnaît en revanche un problème de sous-effectif chronique et assure que des recrutements seront effectués. Engagement insuffisant pour amener les 2 syndicats qui représentent environ 1/3 des contrôleurs à lever leur préavis.
En bref, c'est bien un lot de viande avariée qui est la cause des cas sévères d'intoxication à la bactérie Escherichia coli dans l'Aisne. 30 cas recensés, dont une dizaine très sévères, qui ont conduit à la mort d'une jeune fille de 12 ans. Une enquête est bien sûr ouverte pour déterminer la provenance de la viande. 4 boucheries halal de Saint-Quentin et des environs restent fermées, ainsi qu'une boucherie d'un centre commercial. Et puis un chiffre qui ne manquera pas de faire réagir et de susciter des commentaires. Selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'immigration coûte chaque année 3,4 points de PIB à la France. Ceci alors que la France cherche à faire 40 milliards d'économies sur son budget 2026 et que l'effort sera de plusieurs dizaines de milliards supplémentaires dans les années à venir pour repasser sous la barre des 3% de déficit public. Toujours en métropole, un sous-marin russe au large des Côtes d'Armor. Il a été aperçu il y a quelques jours par des marins pêcheurs. Le récit de Caroline Baudry.
Des pêcheurs partis de Roscoff dans le Finistère samedi matin. Ils sont à bord de leur chalutier de 25 mètres lorsqu'ils croisent ce vaisseau de couleur noire, l'immortalisent et envoient la photo à nos confrères du journal Le Marin. Selon eux, il s'agit d'un sous-marin d'attaque conventionnel diesel électrique de classe Kilo, modèle répandu dans l'armée russe. La marine nationale déclare alors dans une publication sur X suivre ce navire en transit. Les autorités confirment à Europe 1 que ce sous-marin russe remonte de Méditerranée, traverser les eaux françaises par la Manche, escortée par une frégate tricolore. Elles ajoutent que ce bâtiment naviguait dans surface pour montrer sa non-agressivité. Il n'est pas rare que de tels navires traversent la Manche, mais il est plus qu'inhabituel d'en croiser de si près.
À 11h57, la dernière pause sur Journal avant de parler sport et ensuite ce seront les jeudis de l'économie radio rythme bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'Université de la Nouvelle-Calédonie propose aussi de la formation professionnelle pour vous soutenir dans le développement de vos compétences tout au long de la vie. Que vous soyez un professionnel cherchant à acquérir de nouvelles compétences ou une entreprise désireuse de faire évoluer ses talents, bénéficiez d'un accompagnement sur mesure avec l'UNC pour vous orienter et vous conseiller. Infos et inscriptions sur le site unc.nc ou au 290 490.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive et direction les Palaou.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique, on entame aujourd'hui la 4e de journée de compétition, mais on va revenir sur la journée d'hier, Léana Colombo. Puisque les Calédoniens ont remporté 3 nouvelles médailles.
Et oui, notamment en tennis de table par équipe, où nos 3 Calédoniens, Jérôme Morisseau, Mathis Pindon et Raphaël Kin, ont frappé fort dès leur entrée en lice. Ils repartent avec une médaille d'argent bien méritée après avoir chuté face à Tahiti. Les pongistes ont tout d'abord affronté Nauru en quart de finale, puis le Vanuatu, favori de cette épreuve en demi. Jérôme Morisseau a participé à la compétition, mais il est aussi l'entraîneur de l'équipe. Il se dit fier des résultats obtenus. obtenu.
On pensait faire quelque chose de correct, mais pas aussi bien. Donc on est vraiment très ravis de pouvoir faire ça et de faire découvrir les grandes émotions aux jeunes. Je suis vraiment très 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 fier parce que c'est des bons gamins et ils écoutent attentivement toutes les consignes. Ils sont dans l'esprit des jeux, ils sont battants sur tous les points, toutes les balles. Et comme on dit au jeu, il n'y a jamais rien de fait. L'impossible est possible.
La délégation calédonienne a également récolté 2 médailles de bronze en natation. Tout d'abord, grâce à Manon Baldovini, arrivée 3e aux 100 mètres brasse. Elle partage ensuite une 2e médaille de bronze avec ses coéquipières Clara Delunel, Louziala Acha et Camille Jarcé au relais 4 x 200 mètres nage libre. Malheureusement, il y a aussi eu des défaites chez nos cagouilles hier. C'était effectivement une rencontre difficile en beach volley féminin face au Vanuatu. Smaïna Mampas et Gomez Roudré, ce qui représente la Calédonie. Les ont perdu leur 2-7. Écoutez leur coach adjoint, Yann Bouverne.
Ça s'est passé, on va dire, un peu difficilement. La logique, elle est respectée par rapport à l'expérience. Donc, défaite de la Nouvelle-Calédonie en 2-7, 21-8 et 21-10. Bon, un score un peu sévère, mais qui ne représente pas forcément la physionomie du match, puisque à peu près jusqu'à 8 points, c'est-à-dire le premier tiers du set, ça fait jeu égal, voire même c'est devant. Donc, ça manque un petit peu d'expérience, beaucoup de nervosité, des attaques qui sont dehors. Donc, une défaite pas illogique.
Au volleyball, après avoir battu Nauru 3-7 à 0 la veille, les Calédoniens faisaient face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Défaite de la Calédonie 3-7 à 1. Les volleyeurs calédoniens terminent donc 2e de leur groupe derrière les Papous. Et je rappelle le bilan provisoire des médailles. Nos Cagous ont pour le moment remporté 12 médailles, dont 11 en natation. Parmi elles, 2 en or, 2 en argent et 8 en bronze.
Et c'est aujourd'hui donc la 4e journée de compétition. On suivra les Calédoniens engagés notamment en haltérophilie, en natation, en tennis de table ou encore en beach volley.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Le sport sur la scène nationale et internationale avec du tennis. Et c'est le 2e tour de Wimbledon qui a commencé, Léana.
Et le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, s'est défait du piège tendu par le Britannique Olivier Tarvet. Victoire en 3-7, 6-1, 6-4, 6-4. Côté français, Adrian Manarino a battu son compatriote Valentin Royer en 4-7. Benjamin Bonzi a été éliminé en 5-7 face à l'Australien Jordan Thompson. Le match opposant Arthur Rinderknecht à Christian Garin a été interrompu par la nuit. Le français mène 2-7 à 1 et chez les dames, Diane Paris se qualifie en 2-7 contre Diana Schneider.
Et puis l'actualité du football avec le retour d'Olivier Giroud en Ligue 1. L'avant-centre français évolue depuis quelques années à Los Angeles, mais il vient de signer pour un an au LOSC. Il va donc rejoindre Lille la saison prochaine. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
C'est le dernier défi de son immense carrière. À bientôt 39 ans, il les aura le 30 septembre prochain. Olivier Giroud n'a pas fait le choix de la facilité. Le natif de Chambéry aurait pu finir sa carrière sous les palmiers de la Californie à Los Angeles, aux côtés d'Hugo Lloris. Mais le champion du monde 2018 a préféré rentrer en France, en Ligue 1, séduit par le projet lillois et la perspective de se rapprocher de sa famille.
La sérénité qu'il peut y avoir dans cette ville, dans ce club, me correspond. Le fait, encore une fois, de revenir en France me permet d'être plus serein, plus disponible pour mes proches. Je suis très heureux aussi, notamment par rapport à la gastronomie française et toutes les belles choses que l'on a dans notre pays.
Au LOSC, Olivier Giroud portera le numéro 9. Il est en forme. L'attaquant vedette va remplacer le Canadien Jonathan David, parti libre après 5 saisons passées dans le Nord. Après un peu de vacances, Olivier Giroud retrouvera le domaine de Luchin et l'entraîneur Bruno Genesio, qui l'apprécie particulièrement. En revanche, l'ancien attaquant vedette des Bleus ne reviendra pas en équipe de France. Olivier Giroud a tourné la page et souhaite laisser la place aux jeunes.
Il est midi et 3 minutes, c'est la fin de ce journal.